Une question sur la question démocratique, parce que souvent, que ce soit anthropocène contre anthropocène, catastrophisme ou autre, c'est une question qui est présente en filigrane, mais qui n'est jamais vraiment traitée. On sent que les chercheurs, les acteurs, etc., tout le monde est un peu mal à l'aise parce qu'on sait que, voilà, un tyran, c'est pas une bonne solution, mais en même temps, est-ce qu'il faudrait pas ça ? Enfin, voilà. Donc il y a une certaine... un politiquement correct non résolu, à mes yeux, sur ce sujet.
D'accord. On va grouper les questions.
Moi, c'était, je trouvais, merci beaucoup, Francis, j'ai bien aimé les conditions, ce que tu annonces comme les conditions pour qu'une vision du futur ou un futur puisse être crédible. Ouais. Ça rejoint beaucoup, je trouve, la manière dont le journal en parle dans son bouquin, mais tu ajoutes des choses, et c'est ça que je trouve particulièrement intéressant. La question des boucles de révision, mais tu y avais aussi un tiret qui était créer un réseau, et c'est ça où je voulais peut-être que tu me dises un peu comment tu voyais que, en dehors de ce qui doit être énoncé, il y a aussi avec qui on l'énonce, et tu ne l'as pas beaucoup abordé, et ça, je voulais que tu puisses me dire un peu ce que tu veux dire par là.
C'est bon,
Moi, brièvement,
anthropocène
contre anthropocène, donc derrière ça, on voit un peu le côté sport de combat, le côté judo, c'est-à-dire de repartir dans le même registre pour contre-argumenter quelque chose. Et je pense que ça, c'est... Il y a un rôle des sciences sociales, quoi. Bon, voilà.
Oui, non, mais sur la question démocratique, elle est sûre. D'abord, parce que j'anime un séminaire avec Jean-Michel Fourniaux, donc la démocratie participative, hein, bon, j'y ai droit en permanence, je suis membre du conseil scientifique du GIS, démocratie et participation, donc justement, moi j'essaye d'introduire un peu un angle de côté pour éviter de répéter toujours la même chose et d'avoir cette espèce de norme implicite qui est soit la norme habermasienne de la discussion authentique qui devrait avoir lieu pour que les choses aillent mieux, ou de la participation citoyenne, qui est toujours une espèce d'horizon, et finalement d'horizon normatif que portent les chercheurs. C'est toujours mieux quand il y a plus de citoyens qui participent. En fait, on n'en sait rien. D'abord parce que les citoyens, je ne sais pas trop ce que c'est. Hein. C'est d'ailleurs une question que je partage avec Catherine Neveu, qui a beaucoup travaillé sur cette idée d'enjeu de définir le citoyen, en fait. C'est « Disputing citizenship », je crois, quelqu'un qui avait co-dirigé. C'est-à-dire, en gros, il y a des bagarres pour définir la citoyenneté, quoi. Elle va pas de soi. D'ailleurs, on voit bien, même la notion de société civile, elle est au cœur des bagarres. On ne sait pas ce que c'est. Et donc, là, la question, c'est d'essayer de voir, quand des collectifs se créent, quelle est leur échelle de... Comment ils définissent eux-mêmes l'échelle de pertinence et de validité de leur action. Et qu'est-ce qui se passe quand ils changent d'échelle ? Effectivement, on a parlé ce matin de réseau semences paysannes. Il se trouve que j'ai un ami qui est un des membres historiques en Périgord, en tout cas, qui est un célèbre porteur de semences ouvertes, bio, de maïs population en particulier, je ne veux pas le citer, et qui, en fait, est aujourd'hui en guerre quasiment contre le staff, parce que ils sont devenus des stakeholders, et où ils sont tout le temps fourrés à Bruxelles ou dans des arènes extrêmement structurées, et où finalement le bonheur qui était de créer des connexions dans le champ, quoi, et dans le petit laboratoire sur les semences qui va avec, évidemment est en train d'être perdu. Et donc il y a des tensions tout de suite. Donc, pour moi, la démocratie, c'est aussi tout le temps ce travail politique de vigilance sur les porte-paroles. Là, je redeviens bourdieusien. C'est une découverte récente de certains collègues, mais j'ai dit non, attendez, j'ai jamais rejeté Bourdieu, j'ai arrêté de le lire à un moment donné. Le porte-parole parle à la place d'eux. Et c'est un problème. C'est qu'au bout d'un moment, il a tellement de contraintes en tant que porte-parole, c'est qu'il n'appelle pas à manifester le 12 septembre parce que. Et la base y va, par exemple. Pour un exemple récent, pour faire comprendre. Et donc, la démocratie, c'est d'abord cette question de la délégation. C'est-à-dire. Avant d'être la question de la participation, c'est quand même la question de la délégation, puisque tout le monde peut pas prendre la parole en même temps, être au bon endroit au bon moment, et avoir les compétences, etc. Donc il y a cette question de qui parle au nom de qui, et qui est envoyé comme porte-parole. C'est vrai que les collectifs, les mouvements des places, toutes ces expériences dites démocratiques qui ont eu lieu ces dernières années, font bouger cette question des porte-paroles, mais avec un vrai problème de structuration politique. Résultat, vous vous retrouvez avec des gens qui vous ont vendu pendant 10 ans l'horizontalité, l'absence d'appareil, et qui vont appeler à voter Mélenchon. ça fait rigoler, parce qu'on a dit Mélenchon, il est justement critiqué comme étant un petit peu quand même... voilà. Alors, bon, après on peut en discuter, on est là complètement dans un autre espace que la recherche, mais en fait ça s'observe, c'est quand même des phénomènes d'action. Pour moi c'est ça, hein. Donc ça fait partie des controverses, et c'est vrai que j'ai pas de propos méta. Par contre, j'ai proposé, lors d'un débat à Place des Fêtes, alors il n'était pas aussi sophistiqué que là, un modèle de cinéma public, précisément contre la version de l'avenir en commun. Enfin, pas contre, au-delà. C'est-à-dire, vous oubliez plein de trucs, des agences publiques indépendantes. Vous les avez complètement oubliées dans votre truc. Le fait qu'il y ait des porte-paroles médiatiques et des médias indépendants, c'est un des éléments structurants d'une constitution qui fonctionne. Évidemment, les citoyennetés ordinaires, qui ne doivent pas être instrumentalisées uniquement par des tirages au sort ou par des collectifs organisés. Et toute cette dynamique-là, c'est un peu ça qui est derrière. Donc je réponds par un schéma, encore une fois, mais j'essaierai de trouver le moyen de le publier, en tout cas de le rendre discutable. Parce que c'est important, je trouve, d'ouvrir les différents enjeux de l'agir démocratique et de ne pas rester prisonnier, je dirais, d'une version normative, représentative, participative, la solution du tirage au sort, et notre ami Saint-Omer, bon, on tire au sort, et on a 15 Front National qui ont été au sort. Bon, je rigole, mais c'est le problème, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de kit. Il y a une dynamique, en fait, qui engage un certain nombre d'éléments, et c'est assez complexe, on est plus dans un système complexe, et c'est intéressant. Alors, sur la question de la dimension délibérative collective des visions du futur, je pense que ça renvoie plus au plan qu'on avait beaucoup développé déjà avec les lanceurs d'alerte, de la vigilance. C'est-à-dire que scénariser, poser des futurs, les discuter, etc., c'est bien, mais ce qui est mieux, c'est d'accompagner les processus pour à chaque fois alerter ou pointer des bifurcations, des nouvelles contraintes, ou des forçages qui créent précisément des points d'irréversibilité. Et donc c'est pour ça qu'une vision du futur, elle sera d'autant plus crédible qu'elle aura, d'une certaine manière, été débattue du point de vue de la vigilance collective. Alors, un exemple, je finis là-dessus, Yves Arignac. Vous allez mettre des trucs en ligne, voilà.
Oui, tout est en ligne, là. Tout ce que tu dis peut être retourné contre toi.
J'ai une admiration totale pour le travail qu'il fait. Je me suis retrouvé dans plusieurs débats, et en particulier Negawad. Bon, voilà, c'est un vrai. À un moment donné... off, en dehors de la réunion, j'ai dit, tiens, j'ai un étudiant, là, et puis on s'intéresse beaucoup à la controverse Linky. Il n'y a pas de controverse Linky, ça n'existe pas, la controverse Linky. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, pour construire le scénario vertueux, il va falloir des instruments de mesure, des métrologies, et que le compteur dit intelligent, peu importe, ben c'est un bel outil, en fait, pour pouvoir commencer à mesurer les dépenses énergétiques, et donc là, le citoyen, il s'écrase. Or, en fait, le problème, c'est que c'est des rébellions qui ont lieu au niveau communal, qui ont lieu aussi au nom... Alors, évidemment, on a mis en avant, les médias ont mis en avant l'enjeu sanitaire, c'est-à-dire les ondes comme la Wi-Fi, etc. Mais en fait, bon, là-dessus, c'est un cadrage qui permet effectivement de montrer qu'il n'y a pas de preuves. Déjà, c'est difficile que le téléphone portable, alors avec le compteur. Par contre, sur société de surveillance et sur perte de contrôle des communes, avec en plus l'intercommunalité, ça devient tout un schéma. Et là, je me retrouve sur des positions d'un groupe vis-à-vis duquel j'avais plutôt une défiance radicale au début, notamment dans la version L'insurrection qui vient. J'étais plus ambivalent sur celui-là, nos amis, et sur maintenant, qui est le troisième, là, j'adhère. Alors, j'adhère d'autant plus qu'ils nous ont piqué des trucs, hein, parce que ce qui compte, c'est la perception dans le monde sensible, c'est les prises qu'ont les acteurs dans leur milieu, enfin, c'est logique. Il y a eu des influences de la sociologie pragmatique sur nos amis du comité invisible. Il paraît qu'ils sont une centaine rédigés. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est la manière dont ils vont reposer la question de la commune. Et donc, là, c'est pareil. Comment la commune pense son futur, c'est-à-dire ces gens qui vont se croiser et qui sont dans des échanges interpersonnels, aujourd'hui, c'est quand même largement disqualifié par l'idée que c'est du local, donc c'est pourri, par des intérêts d'une ennemi, par des intérêts particuliers, par une incapacité à penser précisément les grands enjeux. Et surtout par la corruption. Il me semble que là, il y a un enjeu qui est de remettre la fabrique des futurs dans les espaces habités. Je finis sur le mot d'ordre de sur l'habité, enfin, sur ceux qui habitent, quoi. Et qui, à mon avis, est un des enjeux majeurs. Et c'est pour ça qu'il y a cette dimension de l'habité du futur, d'une certaine manière, dans la vision qui tient. C'est-à-dire qu'il faudrait, pour adhérer à une vision du futur, il faut pouvoir l'habiter, d'une certaine manière. Il faut pouvoir l'imaginer. Je reviens beaucoup aussi sur les questions d'imaginaire. J'avais exclu de mon vocabulaire sociologique, mais en relisant Castoriadis, j'étais. Bah oui. Castoriadis, c'est pas n'importe qui non plus. C'est quand même important de voir comment je peux imaginer habiter ce futur-là, quoi. C'est-à-dire comment je m'y projette du point de vue phénoménologique. Et je renvoie à Raymond Duval, qui est un auteur qui est un peu disparu, mais qui avait fait un très beau livre qui s'appelle Temps et Vigilance. Je suis un des rares à avoir fait la promotion, mais on m'était surpris d'ailleurs, il dit qu'il s'est passé depuis une centaine de ventes, 10 ans après. Parce que dans ce livre-là, il reprend Husserl. Alors du coup, il ne cite pas Gaston Berger, c'est assez étonnant. Alors, je pense que Berger s'était un peu disqualifié chez les philosophes pour des raisons, il avait trop touché aux questions d'État, de politique. Il était un peu considéré comme un élément non plus impur, quoi. Merleau-Ponty, tout ça, c'était vraiment. Voilà, c'est la Sorbonne. Et c'est vrai que là, sur Temps et Vigilance, il y a cette idée que saisir le futur, c'est l'investir d'une vigilance par la présence éveillée au monde. Et donc, tu vois, alors, moi, je m'en sors de la manière suivante, c'est qu'il n'y a pas de séparation entre la métrologie et la perception sensible.
Ah oui.
Donc, pour lire un tableau, regarder à travers un truc, c'est la poursuite de la perception outillée, quoi. Donc, tu changes simplement l'ampleur de la perception, ouais. En rendant perceptible ce qui n'était pas.
Ah oui, oui.